Je vous propose le commentaire de ce passage tiré de l'Épître aux Romains, au chapitre 13, pardon, versets 8 à 10. En voici la lecture. Frères, ne gardez aucune dette envers personne, sauf la dette de l'amour mutuel, car celui qui aime les autres a parfaitement accompli la loi. Ce que dit la loi, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc l'accomplissement parfait de la loi, c'est l'amour. Alors, ce texte est intéressant à plus d'un titre. Alors, je vous propose un commentaire linéaire qui nous permettra d'en voir toute, enfin, grande partie de sa richesse. Frères, ne gardez aucune dette envers personne, sauf la dette de l'amour mutuel. Eh bien, je me suis toujours dit, notamment en lisant les épîtres de Paul, que ce qui fait le chrétien, ce qui doit le caractériser, c'est qu'il doit être un champion de l'amour, c'est-à-dire de la communion avec ses frères, de la relation du donner et du recevoir. Je ne peux pas m'empêcher de comparer ça avec, par exemple, les bouddhistes ou les moines Shaolin, qui font des choses si spectaculaires, qui surprennent tellement les gens par leur prouesse de gymnastique, de contrôle de la pensée. Mais nous, chrétiens, ce qui doit nous distinguer, c'est la qualité de notre amour relationnel. Alors ici, Paul, sous l'inspiration de l'Esprit, nous donne quelques conseils qui peuvent justement nous aider à voir ce qu'est cette qualité de l'amour relationnel, parce que ça reste un peu vague. D'abord, aucune dette. Alors qu'on peut comprendre ça dans deux sens. D'abord, il ne faut pas que l'on ait de dette envers les autres. Alors, c'est-à-dire qu'il faut savoir recevoir des autres sans se sentir rabaissé ou obligé de les aimer en retour. Nous devons aimer les autres gratuitement. Et quand on dit aimer, on pense souvent à donner, mais il est aussi très difficile de recevoir des autres sans se sentir infériorisé, gêné, etc. Le chrétien est celui qui ne doit pas percevoir dans sa relation avec les autres cette dimension de dette, c'est-à-dire de se sentir redevable, obligé de faire quelque chose pour les autres pour se sentir quitte. Le chrétien sait recevoir dans la gratitude totale l'amour de ses frères, et s'il les aime, c'est par pure gratitude, sans arrière-pensée de se débarrasser ou de flatter son orgueil parce qu'il se sent plus bas, parce qu'il a reçu. Ensuite, n'avoir aucune dette envers personne, c'est ne pas entretenir de dette. C'est donc le pardon, bien sûr, mais c'est aussi savoir aimer sans attendre quelque chose en retour. Parce que nous sommes des êtres bien faibles, et même dans le couple, souvent quand nous aimons, nous estimons obligatoire une certaine réciprocité. Il y a, par exemple, dans la Trinité, une réciprocité absolue, mais elle n'est pas une obligation, elle est pure gratuité. Nous devons apprendre à aimer nos frères, à leur donner, sans attendre, comme un dû, une réciprocité ou un amour en retour. S'il vient, sachons le recevoir, comme je viens de le dire, dans la gratitude et dans l'ouverture. S'il ne vient pas, que cela ne nous dissuade pas de les aimer. Autrement, notre amour sera vraiment à court terme. Donc, cela se résume tout simplement par cette expression: le chrétien est celui que le Seigneur rend capable d'amour désintéressé, qu'il donne ou qu'il reçoive. Car celui qui aime les autres a parfaitement accompli la loi. Alors la loi avec un L majuscule, c'est souvent, on peut dire, l'Ancien Testament. Alors, quand nous lisons la parole, c'est d'abord ça qu'il faut comprendre par cette phrase. Ici, nous avons une indication très précieuse. Quel que soit le passage de la parole de Dieu que nous lisons, des passages choquants, obscurs, ils seront lus correctement si nous arrivons à voir, grâce à l'Esprit Saint, la dimension d'amour qu'il y a dans chaque page de la Bible. La Bible est un livre d'amour. Bien sûr, il y a des passages choquants, et il est nécessaire de se documenter notamment par ce qu'on appelle l'approche historico-critique, pour savoir pourquoi les auteurs ont une mentalité si violente. Mais une fois que l'on gratte derrière cette mentalité, ce terreau culturel dans laquelle la parole, dans lequel la parole s'enracine, eh bien, une fois que nous sommes capables de voir le message en profondeur, toujours il doit y avoir la dimension d'amour dans le message en profondeur de chaque passage de la Bible, quel que soit son aspect choquant au départ. C'est très important. Si l'Esprit Saint nous donne cette tournure, si avec la pratique, avec la prière, nous arrivons à avoir cette tournure de l'Esprit Saint, de voir l'amour dans chaque parole, dans chaque passage de la Bible, alors chaque passage sera vraiment pour nous une nourriture. Oui, vraiment, aimer les autres, c'est vraiment accomplir la loi. Donc la Bible a pour but, dans chaque passage, de nous apprendre à aimer davantage. C'est bien pour ça que le centre de la Bible, c'est Jésus, l'amour de Dieu incarné. Et l'amour de Dieu le plus magnifiquement révélé, c'est Jésus crucifié, c'est-à-dire qui prend sur lui nos soucis, tout ce qui éloigne de Dieu. Il communie jusqu'à notre péché pour nous l'enlever et pour nous rendre capables d'aimer le Père. Eh bien, si nous avons cette tournure d'esprit, le Christ mort et ressuscité, et que nous arrivons à trouver ce Christ mort et ressuscité dans chaque passage de la Bible, alors la Bible sera vraiment une nourriture et nous apprendra à aimer parfaitement. Et dans ce cas-là, nous aimerons les autres parce que nous accomplirons la loi, nous serons capables de trouver l'amour dans chaque passage de la Bible, et la Bible nous aidera à aimer les autres. Nous accomplirons donc parfaitement la loi. Alors, ce que dit la loi, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras rien. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, de nouveau, le résumé de tous les commandements, parce que le piège de la foi chrétienne et de toute religion, c'est de faire une somme de choses à respecter pour être quitte. Et une fois que c'est respecté, c'est bon. Si nous rentrons dans ce piège, nous devenons un peu comme les pharisiens, et au lieu d'aimer, nous finissons par juger ceux qui ne respectent pas tel ou tel commandement. La Bible a pour but de nous conformer à Jésus-Christ, qui a aimé jusqu'au bout, jusqu'à la croix, pour tirer ses frères du pétrin, si j'ose dire. Eh bien, c'est un amour bien plus exigeant qui ne se résume pas à suivre des rites ou des commandements. C'est vraiment l'amour jusqu'au bout. C'est ça être chrétien, c'est très exigeant, mais ça nous rend aussi magnifiquement libres par rapport à une vie que nous pouvons enfermer dans un carcan de commandements à respecter et à se culpabiliser si nous n'y arrivons pas. Alors, ce qui est frappant, si vous relisez les 10 commandements, parce que ça c'est tiré des 10 commandements, commettre l'adultère, ne pas commettre l'adultère, ne pas commettre de meurtre, ne pas commettre de vol, ça c'est les actes. Aimer, c'est bien sûr déjà en acte. Donc déjà ne pas faire du mal en acte. Et puis tu ne convoiteras rien, c'est aussi en pensée. C'est ce que le Seigneur dit, je crois, en Marc chapitre 7, il dit que tout commence par les pensées. Donc nous devons aussi veiller à ce que nous ayons des pensées d'amour. Et pour ça, il faut beaucoup prier pour que le Seigneur soit vraiment présent dans notre cœur. Alors, ça reste toujours, oui, aimer nos frères, ça ne se résume pas à des commandements, etc. Oui, mais qu'est-ce qu'est vraiment aimer? Eh bien, là, il y a une indication très précieuse. Aimer, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Déjà, être chrétien, c'est s'aimer soi-même. Quelle révélation! Souvent, on croit qu'être chrétien, c'est se rabaisser, c'est dire qu'on est nul. La véritable humilité ne consiste pas du tout à se dévaloriser. C'est vraiment la véritable humilité, c'est se rendre compte que nous ne sommes pas seuls et que nous dépendons d'un autre et que cet autre nous aime immensément. Nous sommes aimés de Dieu. Voilà la véritable humilité. C'est savoir que nous sommes aimés et que par conséquent, nous avons besoin de cet amour pour grandir et que nous avons du prix, que nous avons aussi des talents à développer grâce au Seigneur. Voilà la véritable humilité. C'est de ne pas agir sans Dieu, pensant que nous sommes bons tout seuls, mais c'est de vraiment penser que nous pouvons agir et grandir, devenir meilleurs grâce à Dieu. Et cette tournure d'esprit, bien loin de nous dévaloriser, nous donne de la valeur parce que nous savons que nous avons du prix aux yeux de Dieu. Alors, aimer son prochain, c'est lui faire prendre conscience qu'il a de la valeur. Ben, tout simplement en l'aimant, qu'il se rende compte qu'il a de la valeur à nos yeux déjà. Si nos frères se rendent compte que nous les aimons le plus gratuitement possible, alors ils finiront par se tourner vers le Seigneur, car à travers notre amour, ils découvriront un amour plus grand qui nous habite. Surtout si nous prions pour que nos frères découvrent cet amour plus grand, car n'oublions jamais que le début de l'amour, c'est dans les pensées, et c'est donc par conséquent, avant toute chose, dans la prière que cet amour mûrit et grandit. Alors, c'est vrai que peu de gens le pensent. Beaucoup de gens pensent qu'aimer son prochain, c'est, bon, aimer. Bon, mais aimer son prochain, c'est évangéliser. Parce que si nous nous aimons nous-mêmes, c'est d'abord cette rencontre avec le Seigneur qui nous donne de la valeur, qui fait que nous nous sentons aimés. Alors, spontanément, nous avons envie de faire découvrir ce Seigneur aux autres. Parce que si, vraiment, ne pas évangéliser, c'est être très égoïste. Parce que si nous sommes convaincus que le Seigneur nous aime magnifiquement, si nous avons conscience plus ou moins de la quantité de gratitude, si j'ose dire la somme de gratitude que nous devons au Seigneur, tellement il nous aime, si nous avons conscience de ce que nous devons au Seigneur, enfin, plus ou moins conscience, parce que nous ne pouvons pas en avoir pleinement conscience, tellement nous devons au Seigneur, mais si nous avons cette conscience, alors nous ne pouvons pas ne pas évangéliser. Parce que nous savons tous que nous devons au Seigneur pour notre bonheur, nous voulons que nos frères découvrent ce même bonheur. C'est ça, aimer son prochain comme soi-même. Parce que s'aimer, c'est rencontrer le Seigneur. C'est cette relation avec le Seigneur, le tout autre, aimer, s'aimer soi-même. Donc nos frères, nous voulons leur faire découvrir le Seigneur. Et justement, si nous avons ça comme but, de les aimer pour les amener à quelqu'un d'autre, forcément notre amour se fait beau, bien plus gratuit. Parce que nous n'aimons pas pour nous-mêmes, mais pour quelqu'un plus grand que nous, le Seigneur. Nous aimons par le Seigneur, avec le Seigneur, dans le Seigneur, et pour le Seigneur, pour que nos frères le découvrent. Voilà la manière d'aimer gratuitement. Aimer dans le but de faire découvrir le Seigneur, non pas par prosélytisme, mais parce que tout simplement, nous savons que le Seigneur, lui seul, peut rendre nos frères heureux. Alors, la première chose à faire, c'est d'aimer et de prier pour nos frères. Voilà, prier et en prolongement de cette prière, aimer nos frères, pour qu'à travers nous, ils découvrent qu'ils sont aimés par quelqu'un de plus grand. Voilà. Après, le texte dit, donc l'accomplissement, oui, l'amour ne fait rien de mal au prochain, donc l'accomplissement parfait de la loi, c'est l'amour. Alors, ce que j'aime bien, c'est l'amour ne fait rien de mal au prochain. Ça paraît une évidence. D'ailleurs, la plupart des gens, les lois qui sont faites, les systèmes politiques que l'on fait, la justice sociale que l'on vise à atteindre, c'est justement éviter de se faire du mal. Quels échecs dans l'histoire ? Pourquoi ? Ben parce qu'il est très difficile d'arriver à une justice sociale, à ce genre de choses, si l'on oublie la deuxième partie de la phrase, l'accomplissement parfait de la loi, c'est l'amour. Mais dites-moi, l'amour ne peut pas s'acquérir par des lois, par un système social, par des actes simplement. L'amour est une affaire de cœur. Donc si nous voulons changer la société, commençons par changer les cœurs. Mais qui d'autre que le Seigneur, justement, peut changer les cœurs ? C'est le cœur qu'il faut changer avant de changer les lois ou les systèmes. D'ailleurs, si les gens ont le cœur changé, il n'y a plus besoin de loi. C'est bien tout le but de saint Paul dans cet épître aux Romains. C'est d'ailleurs ce que saint Augustin dit. Aime et fais ce que tu veux. C'est ce que saint Paul dit aussi, quand il dit justement que la loi nous rend esclaves et que nous sommes libres dans le Seigneur. Le Seigneur lui-même a dit, la vérité vous rendra libre en saint Jean. Donc il n'y a plus besoin de loi si notre cœur est changé. Donc nos frères ont besoin d'avoir le cœur changé. Donc la perspective est totalement différente. Être chrétien, c'est bien sûr essayer d'agir dans la société, de changer les structures sociales, mais être chrétien, c'est d'abord viser le changement du cœur. Et comme seul le Seigneur peut changer les cœurs, la première chose à faire pour changer la société, c'est de prier pour nos frères, pour que le Seigneur change leur cœur. Et en prolongement de cette prière, c'est d'aimer très concrètement, par des petits actes de charité, nos frères, tous les jours, ceux que nous croisons. Eh bien, si nos frères, nous prions pour eux, Et en accompagnement de cette grâce de prière que nous, que nous faisons, je veux dire en accompagnement de cette prière plutôt qui sème la grâce de Dieu, parce que prier c'est aimer, et dès qu'il y a d'amour, l'Esprit Saint agit, et bien en prolongement de cette prière, qui est d'abord aimée en pensée, si nous aimons en acte nos frères pour lesquels nous prions au quotidien, ceux que nous croisons, c'est par là que nous arriverons à changer la société. Commençons par la prière et des actes de charité concrets vis-à-vis de personnes concrètes, et vous verrez, le cœur de ces personnes changera, et pour chaque personne dont le cœur est changé, la société finira elle-même par évoluer vers quelque chose de plus juste. C'est vraiment ça la dimension du chrétien. Le chrétien, ce n'est pas d'abord, même si c'est nécessaire, un Secours catholique, un CCFD, c'est nécessaire. Mais le chrétien, c'est d'abord celui qui, dans sa vie quotidienne, est un être de prière et un être d'amour, dont la qualité de l'amour relationnel, justement, est rehaussée par sa relation avec le Seigneur. Voilà. Donc, visons d'abord à changer les cœurs, avant de changer la société. Et pour ça, prenons les armes que le Seigneur nous donne, c'est-à-dire d'abord la prière, et ensuite, comme prolongement, aimer concrètement, dans le but que nos frères rencontrent le Seigneur. Voilà. Alors, si vous voulez, je vous propose maintenant de prier. Je vais vous laisser pour cela un temps de silence où vous allez pouvoir prier à partir de ce commentaire. Ensuite, je me joindrai à vous en priant à haute voix, et enfin, je vous laisserai un nouveau temps de silence pour vous permettre de faire vôtre cette prière. Seigneur, voilà, tu nous dis que ce qui est important, c'est le cœur, et que pour arriver à changer le monde, il faut changer le cœur de nos frères, et que pour y arriver, il faut la prière et l'amour. L'amour, c'est de t'aimer toi, et de vouloir que nos frères te rencontrent, donc de les aimer gratuitement pour les amener à toi, dans le respect de leur personne. Alors Seigneur, oui vraiment, fais de nous des évangélisateurs, c'est-à-dire des êtres de prière. Alors apprends-nous à vraiment aimer nos frères quand nous prions pour eux, et que cet amour déborde par des actes de charité à leur égard. Voilà. Amen. J'espère que ce moment passé avec la parole de Dieu en ma compagnie vous a aidé à vous rapprocher du Seigneur. Soyez assurés de ma prière. À bientôt, je l'espère, cher internaute.